7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, Michael, direction la Tunisie avec le dernier ouvrage de Fawzia Scharfi.
Eh oui, la grande physicienne tunisienne Fawzia Scharfi, professeure à l'université de Tunis et ancienne secrétaire d'État à l'enseignement supérieur dans le gouvernement provisoire de janvier 2011. Et elle signe aux éditions Odile Jacob un formidable essai intitulé « Sacrée question pour un islam d'aujourd'hui ». Une sorte de retour aux sources pour cette femme de culture musulmane et scientifique, une plongée dans les textes fondateurs du Coran, mais aussi dans les hadiths, les dires et actes du prophète. Ces milliers de textes, vous savez, qui, contrairement au Coran, forment l'essentiel des normes juridiques, des prescriptions et des interdits prônés par les partisans d'un islam rigoriste. Un retour au texte donc, mais aussi à l'histoire proche, celle de la Tunisie de Bourguiba jusqu'à la révolution de 2011, pour comprendre le pays tel qu'il est aujourd'hui en 2017. Alors j'ai d'abord simplement voulu savoir ce qui avait donné envie à Fawzia Scharfi d'écrire ce livre. Était-ce l'actualité récente, Daesh, la montée du terrorisme islamiste? Eh bien non, l'envie, le déclic, dit-elle, est beaucoup plus ancien, fin des années 70, en plein cours de physique.
Ça a été le déclic déjà au cours des années 80. J'ai commencé à m'interroger sur l'impact de l'islam politique sur la manière dont mes étudiants scientifiques acceptaient la science ou la refusaient. Donc fin des années 70, voilà, je faisais mon cours en deuxième année de fac des sciences de Tunis, sur la relativité restreinte. Alors c'est très facile, hein, la relativité restreinte. Il y a deux postulats. Un des postulats, c'est le fait que la lumière, donc, a une vitesse et elle a une vitesse finie. Et mes étudiants me disaient non, c'est pas possible. La lumière va avec une vitesse infinie. Ce qui m'a troublé, c'est qu'en fait, les étudiants réagissaient parce que pour eux, Einstein s'était trompé. Il touchait à quelque chose qui pourrait être sacré. Il me disait, oui, mais vous voyez, regardez, c'est même écrit qu'Einstein s'est trompé. Alors, je demandais, qui écrit? Mais jamais ils ne m'ont apporté un seul article qui démontrait qu'Einstein s'était trompé. Et là, j'ai essayé de comprendre d'où leur venait cette idée-là. Et en fait, ils étaient en train de répéter le credo des islamistes, qui est d'abord le refus de l'Occident. Ça, il faut bien le dire. La raison n'a plus sa place pour les islamistes. Donc, vous voyez que l'impact de l'islam politique va beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Il touche aussi à la manière dont on considère le savoir. Ce qui faisait aussi que mes étudiants ne réagissaient plus avec leur intelligence.
Et autre raison d'écrire un tel ouvrage, pas très éloigné d'ailleurs de la première, c'est la nature de l'enseignement, le contenu même des programmes en Tunisie, et dès le plus jeune âge des élèves, Fawzia Scharfi.
Une des raisons qui m'a amenée à écrire ce livre, c'est la manière dont l'islam a été présenté à mes filles à l'école. C'est là qu'on réalise que vraiment l'endoctrinement commence à l'école primaire, pas seulement au lycée. Voilà, à l'école primaire, on va dire à la fille, les chrétiens sont condamnés à l'enfer, puisque connaissant l'islam, ils auraient dû se convertir. On l'entend à l'école primaire, dans un cours d'instruction religieuse. On peut entendre aussi un professeur supposé être professeur de philosophie qui fait l'éloge de la polygamie. Donc vous imaginez quand même qu'on est très loin de ce qu'on peut appeler la culture du savoir. Et c'est ça qui est effrayant, c'est de se dire quand même dans nos pays de grande tradition. Mais pour certains, ils sont vraiment, on les oblige à être schizophrènes en fait. Parce qu'ils vivent. En même temps, en Tunisie, un monde qui est moderne. Bon, ben, la polygamie est abolie en Tunisie, interdite depuis 1956. Et en cours de philo, on leur enseigne que voilà, la polygamie a des avantages.
Voilà, cette jeunesse tunisienne devenue schizophrène, plus tiraillée que jamais. Page splendide, je le dis vraiment, à lire dans cet essai. Mais entre la Tunisie de Bourguiba, celle des années 60, et la Tunisie d'aujourd'hui, post-révolution, eh bien, quels sont les changements majeurs? Réponse.
Alors, les changements majeurs, bon, je vais dire dans la rue, mais quand même, un changement majeur, c'est le voile. Vous savez, pendant longtemps, je ne voulais pas parler du voile, je vais vous dire. Et puis là, en écrivant, je me suis dit que, bon, il fallait quand même que je puisse dire à quel point on est loin de l'esprit du texte coranique, je le redis, et puis aussi d'une autre culture. C'est vrai que dans la tradition, les femmes portaient le voile, mais c'était l'occasion pour les filles de montrer aussi leur capacité artistique. Elles brodaient leur voile, etc. Puis quand elles le portaient, c'était un accessoire de féminité, comme ailleurs en Europe à l'époque. Et là, aujourd'hui, le voile est devenu une sorte de marque identitaire. Et c'est un signe politique. L'origine du voile n'est absolument pas religieuse. Je rappelle comment en 57, les femmes avaient manifesté dans la rue pour dire, voilà, on enlève le sefseli, c'est le voile traditionnel. Pour mes camarades de classe, c'était une libération. Alors qu'aujourd'hui, les femmes affichent ce voile, et que ce soit dans les administrations ou même dans les hôpitaux, etc. Les femmes ne se rendent pas compte que c'est le début de la fin de la mixité. Il faut réaliser que c'est un signe d'infériorité pour les femmes, et c'est aussi une manière de mettre fin à la mixité petit à petit et de ramener la femme là où elle était, c'est-à-dire dans l'espace de la maison familiale, etc. Et certains arguments aujourd'hui de certains islamistes sur la question du chômage, c'est de dire, eh bien voilà, si les femmes ne travaillaient pas, eh bien il y aurait plus de place pour les hommes. C'est une régression.
Alors, près de 6 ans maintenant après la Révolution, que reste-t-il aujourd'hui de ce formidable espoir né de la chute du régime Ben Ali ? Eh bien, finalement, l'essentiel.
Écoutez, il reste la liberté. Là, je suis en train de vous parler librement. Nous avons la liberté de nous exprimer, ça. Pour ceux qui n'ont jamais imaginé être censurés, etc. Mais c'est fondamental. Alors, nous n'avons pas résolu le grand problème du chômage. Ça, c'est la grande difficulté actuelle. Et c'est très douloureux de voir ces jeunes diplômés ou non diplômés à la recherche d'un travail pendant des années et des années. Ajoutez quand même à cela que la Tunisie a perdu ces millions de touristes qui venaient en Tunisie. En ce qui concerne la vie politique, bon, ça se construit lentement. Et ce qui est magnifique en Tunisie, c'est la société civile. Et c'est pas parce que je suis une femme que je vais vous le dire, c'est aussi la résistance des femmes tunisiennes. Parce que c'est elles qui ont tenu bon en premier sur la question de la constitution, sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui ont refusé, nous avons refusé le concept de complémentarité de la femme par rapport à l'homme que les islamistes voulaient imposer dans la constitution. Donc c'est peut-être étonnant, mais vous savez, eh ben je ne suis pas inquiète.
Voilà, elle n'est pas inquiète, Faouzia Charfi, magnifique scientifique tunisienne, qui signe donc chez Odile Jacob, Sacrée question pour un islam d'aujourd'hui, à lire vraiment d'urgence.
Et après la Tunisie, Michael, on file au Sénégal, sur l'un des plus grands campus universitaires du pays.
Oui, le campus de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, inauguré en 1959. Université connue et reconnue partout en Afrique, et bien sûr en Afrique de l'Ouest. 80 000 étudiants, 60 nationalités représentées. Mais une université en grande difficulté, surpeuplée, littéralement saturée, et régulièrement théâtre de grèves, de manifestations. Alors des projets ont été lancés pour tenter de désengorger le campus. Mais en attendant, pour la majorité des étudiants, comme pour les profs d'ailleurs, eh bien le quotidien est particulièrement difficile. Bonsoir Amélie Tulé, correspondante de France Inter à Dakar.
Bonsoir Michael.
Alors on commence notre visite, Amélie, à la faculté qui reçoit donc chaque année le plus grand nombre de bacheliers, c'est la faculté de lettres.
Oui, nous sommes avec un étudiant, Pabouna Faye, en haut d'un amphithéâtre de 1000 places assises, en théorie, car il faut enlever les chaises cassées, pour plus de 2000 étudiants inscrits en première année.
L'amphi est plein à craquer. On voit même des étudiants qui n'ont pas pu avoir une place. Et ceux qui sont assis, ils sont arrivés une heure avant le cours, raison pour laquelle ils ont une place.
Des étudiants s'installent dans les travées ou sur des briques qu'ils ont apportées. D'autres s'assoient sur l'estrade du professeur. Surpopulation dans les amphis, mais aussi dans les chambres universitaires. 10 000 lits officiellement pour 5 fois plus d'étudiants hébergés. Malan a passé l'année au pavillon A, considéré comme le pire de tous.
Toutes les conditions nous mènent à l'essai. 7 personnes par chambre, il n'y a que 2 lits. Des fois on est obligé, d'autres sont obligés de sortir à l'extérieur pour étaler leur matelas. Et puis il y a beaucoup de bruit.
Alors comment vous étudiez ?
Après le dîner, je quitte pour aller dans les amphithéâtres. C'est là-bas que je passe la nuit. Je reviens qu'à 4 h du matin comme ça. Je me repose avant 8 h si j'ai cours.
Tous les soirs, à la nuit tombée, on peut donc voir des étudiants qui fuient la promiscuité. Comme Modou, ils sont dehors et ils viennent réviser sous les lampadaires.
Chaque jour, on est là, on apprend nos leçons. Malgré il y a des moustiques aussi, parfois il fait fraîche, mais on gère.
Des conditions difficiles pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs. Dans une université surchargée, l'encadrement, la correction des copies, le suivi des thèses, tout devient problématique. Le professeur Amadouli a vu ses conditions de travail et le niveau de ses étudiants se dégrader vertigineusement en 40 ans de carrière.
Nous avons connu des programmes dits d'ajustement structurel, surtout dans les années 80, où la Banque mondiale et le FMI nous ont imposé des coupes drastiques dans les budgets et autres. En même temps, il y a eu, disons, une sorte de course à l'éducation universelle. Donc on a créé énormément d'établissements secondaires. On a un peu bradé l'enseignement secondaire et par effet, disons, domino, ça a suivi dans le supérieur. Donc nous sommes retrouvés au détour des années 90 avec une masse énorme de bacheliers qu'il fallait coûte que coûte caser. Et voilà pourquoi la situation que nous vivons.
Les professeurs sont régulièrement en grève car il y a aussi des retards dans le paiement des salaires et dans la revalorisation des retraites. Face à toutes ces difficultés, le recteur, le professeur Ibrahim Atioub, estime que les décisions politiques nécessaires ont été prises, mais qu'il va falloir supporter une phase de transition difficile.
Dormir à 8 dans une chambre et retourner à la fac, suivre des cours dans des amphis qui ne peuvent pas contenir les étudiants, personne ne nie que c'est extrêmement difficile. Il faut y ajouter que des constructions sont en cours dans toute l'université, des amphis sont en train d'être réhabilités. L'extension de la carte universitaire fera souffler l'UCAD. Et je pense que si nous stabilisons notre système autour de 50 000 étudiants, ce sera tenable.
Objectif atteignable selon le recteur d'ici 2020. Plusieurs universités ou instituts sont en cours de construction dans le pays. Il faut dire, Michael, que jusqu'il n'y a pas si longtemps, au Sénégal, il n'existait aucune formation post-bac à plus de 120 km de la côte atlantique.
Reportage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Reportage signé Amélie Tullet. Merci beaucoup Amélie et Nico. À demain.